la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Par le bout de la lorgnette, une émission, vous en avez l'habitude, littéraire, et en cette rentrée littéraire, nous allons parler de BD. On va changer un peu avec Valérie qui est là. Salut Valérie.
Et salut
Popo, salut Popo.
Salut tout le monde.
Alors Popo, je t'augmente le micro, vas-y.
Je recommence.
Ouais, c'est pas mal. Salut Héloïse, est-ce que c'est le bon micro pour toi? Attends.
Tous.
Ouais, c'est le bon. Ça va Héloïse, en forme?
Ça va, plutôt en forme, et toi?
Oui, ça va, écoute, on fait aller, hein, cette rentrée. Je mériterais un peu plus de vacances, mais ça, j'avais qu'à en prendre plus cet été.
Et oui, c'est ça.
Ah, alors, on va parler de BD, c'est des BD de rentrée, Héloïse, qui viennent de sortir.
Oui, toutes les BD dont on va parler sont sorties dans les 2-3 dernières semaines. Oui. Voilà, parce qu'il y a aussi une rentrée littéraire pour l'en dessiner maintenant, un peu tous les autres, parce que c'est la littérature historiquement. Mais tout le monde s'y met un peu à faire une rentrée, que ce soit en jeunesse, en BD, en policier. Voilà, ça gagne un peu tous les autres genres, la rentrée littéraire.
Ok, il y avait des BD qui étaient attendus ou pas en cette rentrée?
Oui, il y a pas mal d'auteurs, effectivement, assez connus qu'on attendait. On va parler de Bastien Vivès, par exemple, Catherine Meurice. Voilà, là, ce sont des BD qui étaient vraiment attendus par le public.
Riyad?
Oui, effectivement, la semaine dernière, il y a le dernier Arabe du futur qui est sorti de Riyad Satouf. C'est le numéro 4 et je ne sais pas si vous aviez lu celle d'avant. Donc je me suis dit, parler du numéro 4 sans parler de ceux d'avant.
C'est compliqué.
On avait parlé du 1.
Compliqué.
On en avait parlé du 1, oui. J'ai eu de très bons retours, encore une fois, sur ce quatrième épisode.
Oui, alors c'est possible. C'est voilà. Possible.
Tu l'as pas lu?
Non, j'en ai lu aucun. Ouais, j'en ai lu d'autres de Riyad Satouf, les Cahiers d'Esther, par exemple. Ils sont super. Mais pas encore l'Arabe du futur, mais j'ai des très bons retours de clients aussi.
Parfait. Allez, Popo, à toi l'honneur.
À moi l'honneur. Bah, alors, je vais commencer avec Kimi le vieux chien.
Et t'en profites pour souhaiter un bon anniversaire à Kimi qui fête ses 9 ans aujourd'hui.
Bon anniversaire, Kimi.
Alors, très bien.
Voilà.
Allons-y.
Non, mais c'est un peu.
D'ailleurs,
ce qu'on
pause
veut,
musicale,
c'est libre.
La pause musicale, ça va être avec Mia.
C'est vrai? Génial. Voilà. Tu vois un peu le lien.
Mia qui est la sœur de Kimi.
C'est ça, c'est son anniversaire avant-hier.
Exactement.
Voilà.
Ils sont nés assez près. Hein.
Ouais,
c'est bizarre ça.
C'est bizarre.
Ouais.
On en reparlera.
Oui.
Bon, Kimi n'a pas 9 ans ni 12. Kimi, le vieux chien, est vraiment très vieux. c'est une BD de Nilsson. Franchement, quand Héloïse m'a donné la BD, je me suis dit waouh, c'est super beau, c'est un super beau livre. La couverture est verte à petites fleurs avec un liseré blanc, une typo pour le titre vachement sympa. Enfin, hyper original. Quand on le voit, on se dit pas que c'est une BD, je trouve. Donc j'étais emballée de l'ouvrir. Les dessins, quant à eux, alors c'est que du noir et blanc. Et c'est du noir et blanc qui semble être un genre de gribouillis.
Ça donne envie, tiens.
Mais ça l'est pas du tout, finalement. C'est pas du tout du gribouillis. Au contraire, on a des paysages de nature superbes. C'est impressionnant, comme juste avec du noir et ce qu'on croirait être du gribouillis en passant, on peut avoir des dessins magnifiques, des dessins de plantes, des dessins de nature vraiment très beaux.
Avec beaucoup de détails, du coup, j'imagine.
Avec énormément de détails. Enfin, c'est assez incroyable, je trouve, de réussir à faire des fleurs en gribouillis. Moi, j'ai été très étonnée
par le dessin.
Mais
quand tu montres, on dirait des gravures anciennes, en fait.
On dirait de l'encre de Chine.
Oui, c'est possible que ce soit de l'encre de Chine, ouais. Ça, c'est... Ouais.
J'en faisais au collège.
Tout le monde a fait de l'encre de Chine au collège.
Il s'arrêtait après.
La vie, etc. Bon, là, c'est de grande qualité. Hein. C'est pas de l'encre de Chine de collège.
On faisait de l'encre de qualité au collège, Pauline.
Alors, l'histoire, c'est l'histoire donc de Kimi le vieux chien. C'est un, un album qui est découpé en plusieurs parties qui ont alors souvent le même titre, Kimi le vieux chien, et parfois Kimi le vieux chien cherche un endroit pour dormir, Kimi le vieux chien cherche un endroit pour mourir, pauvre vieux chien.
Oh. Il donne super envie ton livre là tout de suite.
L'histoire est assez étonnante parce que alors déjà Kimi le vieux chien, il est jamais franchement dessiné, il est assez flou comme chien, on le voit sur la couverture, hein, c'est un saucisson de gribouillé. Hein.
On dirait un berger des Pyrénées qui a passé trop de temps sous la pluie.
Ah ben voilà, ça doit sûrement être ça. J'avais pas saisi le.
Après j'ai pas mes lunettes donc je vois pas très bien. Mais...
Et il est flou un peu comme le personnage de Kimi finalement qui est un vieux chien qui est un peu malheureux, un peu malade tout le temps. Il est sûrement un peu hypochondriaque. Bon,
c'est Ludo.
Il en peut plus. Il est seul. Il a plus de flair. Il cherche des femelles, mais il en trouve pas. Enfin bon, là, le pauvre, sa vie est extrêmement dure.
C'est tout moi.
J'avais pas la fin, excusez-moi.
Voilà, c'est pauvre Kimi, vieux chien. Enfin, le titre est hyper parlant parce que c'est ça, c'est pauvre Kimi, pauvre vieux chien, quoi. Vraiment, quand le titre arrive, Kimi attend de mourir, on se dit, ça y est, il va être libéré. Ben, je vous dirai pas la fin, mais le pauvre, il est pas si libéré que ça.
Mais est-ce que c'est drôle, du coup?
Alors, moi, ça m'a fait sourire, mais j'arrive pas à savoir si l'auteur, donc, Nilso, qui a dû faire le dessin
et le
texte, je pense, puisque c'est le seul nom. Si lui, son but, c'était de nous faire rire, mais moi, ça m'a fait plutôt rigoler. Oui, parce que vraiment, t'en peux plus pour ce pauvre vieux chien là. Et puis, il est assez insupportable, il faut le dire, parce qu'il se plaint tout le temps. Il se plaint aux arbres qui lui disent « Bon, attends, toi, tu peux te déplacer, t'as encore un peu de flair, tu bouges, t'es... tu peux aller dans l'eau, nous on n'a plus d'eau, on est au sec, on est malheureux, ça fait 100 ans qu'on attend la fin. » Et... Enfin bref, c'est assez rigolo. Je pense que l'objectif c'est l'humour, après c'est particulier, mais c'est rigolo. Et le dessin est super, et le bouquin est très beau.
Le livre est super joli.
Ouais, ça a été édité avec le concours du CNL, du Centre National du Livre. Et
Non, ça donne bien envie, ouais. C'est un bel ouvrage.
C'est un beau livre, ouais.
J'ai lu des critiques de gens qui allaient, comme j'ai pas pu le lire, du coup, comme il restait qu'un seul exemplaire. Et j'étais sur internet voir un peu des critiques et les gens ont trouvé ça vraiment drôle aussi. Ouais. Un humour un peu noir, oui. Un peu pince sans rire. Qui a vraiment charmé beaucoup de monde.
Oui.
Voilà.
Ouais, ouais. Alors, je pense qu'il ne faut pas le lire d'un coup. Je pense qu'il faut lire des petits passages, parce que sinon, on n'en peut plus de Kimi, je pense. Hein, parce que vraiment, il passe son temps à se plaindre. Mais ouais, c'est assez drôle. C'est un bon moment. C'est étonnant, c'est original. Allez-y.
C'est une vie de chien.
C'est une vie de chien, oui.
Et c'est chez Misma Édition.
Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Misma, je ne connais pas.
Ils sont à Toulouse, si je ne m'abuse.
Ok, maison toulousaine, la ville heureuse. On salue nos auditeurs toulousains. Si on en a, on sait pas, peut-être en streaming.
En podcast.
Voilà. Valérie, chère Valérie.
Oui, chère Ludovic, chère Pauline et chère Héloïse, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous raconter l'histoire à la soirée d'une faune. Pour tous ceux qui, comme moi, avaient passé des nuits blanches à essayer de décrypter l'œuvre de Mallarmé, la soirée. L'après-midi d'un fauve, pardon, vous apprécierez, vous aussi, à sa juste valeur, 20, 30 ou 40 ans après votre baccalauréat, de lire la bande dessinée. Que dis-je? Non pas la bande dessinée, mais le ballet dessiné qui s'appelle donc « Soirée d'un fauve » de Rupert Émulot, édité aux éditions L'Association. Alors déjà, ce ballet dessiné en un acte, je vais y revenir dessus.
Alors ballet, on parle de danse. Hein.
De danse, voilà. Ouais, il préciser. Est présenté, mais on est quand même sur une bande dessinée, hein, sur du 9e art. Il est présenté sous forme d'une carte IGN. Alors je sais que ça effraie ceux qui ne savent pas replier les cartes IGN, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir en grand pour lire « Soirée d'un fauve », d'un faune, pardon.
Il n'y arrivera pas.
Non, j'y arriverai pas. Pourtant, tu vois, pour une fois, j'ai pris des notes. Mais si j'ouvrais la bonne page, mes notes, ce serait beaucoup mieux. Voilà qui est fait. Donc, ce ballet contemporain à un acte a été... ça peut paraître un peu simple au départ, se dire « Ouais, super, ils ont fait une belle mise en page. Ils ont dessiné une BD en un acte sur une carte IGN. » Mais pourquoi? Alors, on va revenir donc à nos nuits blanches littéraires quand on était étudiant. Et on va se rappeler donc le grand poème de Mallarmé, l'après-midi je vais y arriver. Non, alors, pour ma défense, je l'ai lu en vieux français où les U étaient écrits en V. Donc, j'ai le droit de me tromper.
Je suis en train de me poser la question, est-ce que tu l'as vraiment lu ?
Oui, mais quand j'étais jeune, jadis. Oui. Mais ça, c'était la poésie.
Non, mais la bande dessinée.
La bande dessinée, je l'ai lu, j'ai été outrée, je vous ai même envoyé des photos sur
c'est
le
vrai.
Moment. Rappelez-vous.
Je m'en rappelle.
Voilà, et en fait, Mallarmé, il avait écrit donc, un poème sur l'après-midi donc, d'une faune. Et
D'un faune. En fait, un faune. C'est un personnage un peu lubrique avec des cornes, c'est un personnage mythologique en fait.
C'est ça. Et voilà. Qui était cette poésie, voilà, elle avait été écrite en 110 alexandrins. Et cette poésie, quand elle a été donc jouée après sur scène, et donc Debussy l'a illustrée avec une chanson qui elle-même a 110 mesures. Et bien là, notre cartigienne représente un ballet en un acte. Donc on peut ouvrir la carte en grand et c'est une seule planche, donc une seule image. Bourré de plein de détails, et on a 110 danseurs et danseuses qui évoluent donc dans cette soirée d'un faune. Cette soirée où tout peut arriver, où tout est possible, où vont se mêler les corps, les gens, dans tout un tas de situations. Et donc nos danseurs déambulent en tutu bleu magnifique, et dans cette soirée, tout semble permis. On boit, on danse, on... Papa coupe la radio, on baise, on fait vraiment tout ce qu'on veut.
On copule, on dit.
Oui, mais là, tel que c'est dessiné, excuse-moi, mais c'est quand même une partouze.
C'est la copulation ardue.
Oui, voilà. Donc voilà, c'est vraiment la vie de la soirée. On n'est plus sur l'après-midi de Mallarmé, mais on est vraiment sur la soirée. Et je crois qu'Héloïse, qui vient de me piquer la poésie,
vas-y.
A très envie de vous lire un passage de la poésie de Mallarmé.
Non, parce qu'en fait, c'est vrai que je l'ai lu aussi, du coup. Et c'est très lubrique et c'est très sexe, on va dire, cette soirée d'un faune. Mais il faut dire que le poème, à la base aussi, même si c'est beaucoup plus imagé, c'est très chaud, effectivement, plein de métaphores.
Ah oui, c'est des allusions sexuelles tout le long du poème et qui grandissent avec le déroulé de l'après-midi, plus l'après-midi bat son plein, plus les allusions sexuelles de Mallarmé sont pleines. Et là, 120 ans plus tard, on passe de passer de l'après-midi à la soirée pour arriver à notre BD. Et il a fallu 124 ans. Et c'est très bien représenté. C'est-à-dire que sur la BD, on a vraiment l'évolution de la soirée.
Oui, les auteurs imaginent en fait la suite de la vie de ce faune qui a déjà passé une sacrée après-midi et imaginent en fait la soirée qui pourrait passer dans le sens, dans la continuité de Mallarmé, mais dans un monde contemporain. Parce qu'il y a des pointes de notre monde en fait dans cette BD carte. Voilà. Mais après, je ne sais pas si tu veux lire un extrait.
Non, pas forcément, je l'avais ressorti.
Si,
pour
Valérie,
non, je n'avais pas noté.
C'est pas grave, lis-nous
une
strophe, quelque chose.
Pas mes lunettes.
Allez, Héloïse.
Je vais vous lire le début.
Voilà,
du coup.
Très bien.
Ces nymphes, je veux les perpétuer. Si clair, leur incarnat léger qu'ils voltigent dans l'air, assoupis de sommeil touffu. Aimais-je un rêve ? Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève. En mains rameaux subtils qui demeuraient les vrais, bois même, prouve hélas que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale des roses.
Voilà, très beau.
Plein d'allusions, mais c'est beau, hein, c'est vraiment
Oui, beaucoup de fleurs, de fruits.
Moi, c'est la première fois que je vois ça, je trouve ça très original, mais c'est vraiment rebutoire pour moi. Hein. Lire sur une carte hygiène, comme tu dis, Valérie, déjà, c'est détestable comme format quand tu fais de la route. Et dans son lit, comment tu fais, là ?
Moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux, parce que alors il y a deux écoles sur la carte hygiène. Il y a l'école Finiel, je crois, où la carte a été ouverte en grand...
Oui, moi, j'ai déplié entièrement, malgré ma peur de ne pas pouvoir le replier.
Mais je t'avais proposé mon aide pour replier. Et moi, je l'ai ouvert comme un livre, c'est-à-dire je l'ai ouvert petit à petit. J'ai regardé d'abord la page de gauche en haut, puis après, je suis descendue, puis petit à petit. Et j'avais l'impression que c'était sans fin. Et comme les cartes hygiènes, j'avais très envie qu'au dos, en ouvrant, il y ait quelque chose. Mais comme les cartes hygiènes, à l'intérieur, il n'y a rien. Mais j'aime bien les cartes, en fait, c'est peut-être pour ça.
Tu avais déjà vu ce concept de format, Héloïse ?
Alors, je l'ai vu cet été, aux rencontres d'Arles. Mais c'était, c'est une boîte qui s'appelle « This is not a map », donc ce n'est pas une carte. Mm-hmm. Et c'est plutôt la présentation d'un travail photographique autour d'une ville ou d'une région. Voilà, et c'est vraiment super parce que tu achètes une carte où il y a marqué Florida ou les Hauts-de-France ou Paris, ou etc. Et donc, du coup, en fait, tu ouvres comme une carte et tu as tout un travail photographique en fait, de mise en page.
Mais tu es tenue de l'ouvrir en grand.
Bah, en fait, non, tu peux aussi l'ouvrir petit à petit.
Parce que là, tu peux vraiment apprécier les dessins, parce qu'il y a quand même quelques textes. Hein. C'est un grand bordel, enfin, c'est un joyeux bordel quand même, hein, cette bande dessinée. C'est une seule planche, donc un seul acte comme le poème de Mallarmé. Mais c'est plein de tas de détails, enfin, c'est vraiment très, très contemporain, mais ça peut se lire en grand. Enfin, moi, je ne l'ai pas ouvert en grand, je n'avais pas envie d'avoir tout qui me saute aux yeux. Mais tu peux le regarder, mais vraiment page par page. Et ça fait, du coup, ça fait une vraie BD. Et le format est super original. En plus, ça
oui,
prend pas de place.
C'est intéressant parce qu'il y a différents modes de lecture et voilà, y a différentes façons de découvrir les dessins, le texte et l'histoire. Quoi.
Mais il y a vraiment une évolution de ces danseurs qui évoluent dans la ville en le regardant petit à petit. Et on se demande, à un moment donné, y a une espèce de bagarre où ils ont tous des flingues. Après, ça va être des danseurs. Après, voilà. Il va y avoir des tranches de vie et tout évolue au fur et à mesure. Et c'est long, en fait. Hein. Si vraiment on veut bien le regarder, c'est très, très long à lire.
Du coup, tu as essayé de superposer le texte de Mallarmé au dessin pour retrouver quelle séquence
après,
à quel moment...
honnêtement, à part le côté très, très évolutif de la soirée, comme l'après-midi de Mallarmé qui commence doucement et qui petit à petit devient très, très sexuel, en fait, à part ça, j'ai pas trouvé de lien. J'ai pas retrouvé ce joyeux bordel qu'on retrouve dans le contemporain, enfin dans la soirée d'un faune. Mais par contre, j'ai retrouvé voilà, les allusions sexuelles, sauf que là, ils ne pouvaient plus faire des allusions parce qu'il n'y avait plus de texte. Et c'était du dessin, clairement.
Ouais. Et du coup, c'est vrai, comme c'est reporté au monde contemporain, je pense que c'est plus les vices contemporains. Il y a plein d'allusions, effectivement, à des choses qui sont apparues avec notre société.
Oui, t'as l'alcool, t'as la drogue, t'as tous les... Voilà, là, il s'enivrait à l'époque de poésie, de fleurs, de...
Non, il y avait un peu de vin, quand même. Hein.
Aussi. Bon, non, mais j'ai essayé de mettre un peu de romantisme dans cette émission, mais bon.
Donc voilà, non, mais c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça vraiment original et très agréable, en fait, comme lecture. Et il y a des côtés drôles aussi.
Ah bah oui, c'est très, très drôle, oui.
C'est chez qui?
C'est chez l'association.
Ça te parle pas du tout.
Une petite maison d'édition indépendante qui a été connue grâce à l'édition de Persepolis de Marjane Satrapi.
D'accord.
Voilà. Okay.
Très bien, merci Héloïse de ces précisions. Toujours intéressantes. Vite, je vais vous présenter un livre, une bande dessinée donc, que j'ai lu cette semaine. Il s'agit du manifeste du Parti communiste, voilà, de Karl Marx et de Friedrich Engels. C'est adapté par Martin Ronson. Alors, Martin Ronson, c'est un caricaturiste qui est dessinateur éditorialiste, au Guardian, c'est un anglais. Et donc, qui a été touché lors de sa jeunesse, alors je ne sais plus, il le dit au début, vers 15-16 ans, en lisant le manifeste du Parti communiste. Eh bien, c'est ce manifeste en bande dessinée, donc des dessins, bien sûr, de caricatures. Hein. On voit, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les journaux, ces dessins noirs et blancs avec beaucoup de rouge, un peu propagande, un peu caricature. Alors, en fait, il commence avec une longue fresque sur une quinzaine de pages, je pense, où il explique un peu son rapport avec ce manifeste et comment Marx a écrit ce manifeste, comment il a été oublié, comment il est réapparu après plus tard, pour après rentrer dans le vif du sujet et donc expliquer ce manifeste en dessin. Donc c'est des dessins uniques avec une seule bulle, avec plusieurs bulles, avec des cases, c'est un peu tout ça, quoi. Donc c'est pour les personnes qui s'intéressent à ce manifeste et qui n'ont pas envie de le lire, alors que c'est bon, c'est un texte très court, hein. Eh bien, avec ce livre, on se met à l'ordre du jour avec des dessins en quelques pages. Quoi. Je ne sais pas, il doit y avoir 100 pages, une centaine de pages, quelque chose comme ça.
Et toi, tu l'avais lu, Ludo, ou pas le manifeste?
Pas du tout.
Non, ben moi, j'avais pas lu le manifeste et j'ai lu la BD aussi. J'ai beaucoup appris.
C'est ça, oui. C'est vraiment, on apprend. Après, en plus, ça peut pousser à vouloir lire le manifeste. Le manifeste, il a écrit, je ne sais plus, en
ça
février de quelle
pages,
année.
Hein, 1880.
C'est très court. Ouais.
Et c'est vrai que c'est des grandes fresques. Il y a beaucoup de détails, des détails politiques, sociologiques, historiques. Et c'est vrai que Marx a écrit ce petit manifeste, comme il l'explique, à Londres en 1800 et quelques. Et il ne pensait pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y aurait encore des milliers de personnes sous le joug de ces... Enfin, sous le joug ou pas, mais sous ce genre de régime politique, en fait. Et c'est assez incroyable de voir l'évolution de ce texte. Et il faut dire aussi que Marx, il l'a écrit avec un copain qui s'appelle... Engels, c'est ça? Ils écrivaient, c'était assez utopique pour eux, ils écrivaient ça dans les pubs, ils avaient des grandes discussions politiques et c'était vraiment pour eux un idéal et qui a été repris finalement par la Chine, par la Russie et avec les dérives qu'on connaît. Donc c'est assez impressionnant, je trouve, l'histoire de ce texte et je trouve que cette BD-là en parle très bien.
Oui, c'est ça. Le manifeste qui a été commandé à Marx, et on lui a demandé de le fournir fin janvier. On lui a commandé très tôt avant, donc il l'a donné le 28 janvier, parce qu'il était un peu à la bourre. Il était en train d'écrire Le Capital,
oui.
Le Capital qui va être son ouvrage
référence.
Il a mis
20 ans, ouais, à écrire Le Capital.
Oui, il a mis 20 ans, ouais. Et donc il a écrit très rapidement ce manifeste. D'ailleurs, il finit, quand il fait des propositions, avec des « etc. Mm-hmm. » Parce que on voit qu'il était, il va vite. Mais oui, c'est voilà. Pour toutes les personnes qui ont envie de s'intéresser donc à ce manifeste et pas le lire, avec cette bande dessinée, on est vraiment plongé dedans. Ouais.
Ouais. Et le propos en fait du manifeste, la plupart de, enfin dans les premières pages du moins, c'est comment à travers l'histoire en fait, Marx pense que il y a des étapes dans l'histoire où effectivement le prolétariat a toujours été dominé. Et comment il pense qu'en fait le peuple va forcément dans l'histoire gagner à un moment donné et il y a toute une analyse de l'histoire en fait du Moyen Âge jusqu'à la Révolution industrielle qui est vraiment intéressante je trouve.
Et au niveau des dessins, c'est un peu un plantu, un peu plus sombre,
un peu plus noir, ouais.
Un peu plus noir, mais voilà, on peut se rapprocher si on cherche des caricaturistes, éditorialistes français à Plantu, ouais, non, c'est intéressant.
Mais donc oui, pourquoi pas, effectivement, ça peut s'offrir même à des ados, puisque c'est un texte qui apparemment est assez accessible, même pour des ados, enfin ados au lycée, hein, je parle hein, avec le réveil de la conscience politique à cet âge-là, etc., ça peut être assez intéressant.
Et puis avec un format vachement étonnant, quand même, c'est super rigolo pour accéder à un texte comme ça, cette idée d'album un peu... C'est très chouette.
Voilà, c'est Popo, tu as le livre, c'est quelle maison d'édition ?
Actes Sud.
Ah, Actes Sud. Nos amis d'Actes Sud. Mia, donc, M-I-A, c'est la chanson du jour.
Mia, oui.
Tu sais ce que ça signifie, M-I-A ?
Ah non,
ce
désolé.
Sont des initiales. Mais moi non plus, je ne sais pas.
Mais la chanson s'appelle Borders et ça parle du problème des frontières aux États-Unis. Et c'est une chanson très, très engagée et très belle.
Voilà, comme le manifeste. C'est engagé.
Exactement.
Allez, c'est parti. Freedom, I don't need 'em. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Freedom the key. Freedom the key to life. Let's beat 'em. We them smartphones don't beat them. Give it in and in the
We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns, blows, doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We're representing peace, got them players on the act. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We're representing peeps, they don't play us on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boys, what's up?
Allez, on est de retour. Ouais, c'est une belle chanson, Héloïse. Valérie, dis-nous, je te redonne la
vrai,
parole.
C'est vrai, tu me redonnes la parole et je t'en remercie. En fait, on va faire un débat, si ça ne vous embête pas trop.
Ah,
parce
non.
que dans la voiture, on a failli se disputer avec Héloïse. On parlait des livres qu'on avait lus toutes les deux. Et j'ai dit, oh là là, moi j'ai lu 3 BD. Ben, les 3, elles sont super, j'ai adoré. Bon, y a eu un gros coup de cœur, mais on est d'accord. Donc, on débattra après dans le même sens. Mais là, ben, y a celle-ci.
Ah, vous n'êtes pas d'accord.
Mince, on n'a pas été d'accord.
Ah, ben ça me fait plaisir, hein, parce qu'on est souvent d'accord.
Et voilà, ben là, pour la première fois, nous ne sommes pas d'accord.
Alors, qui aime, qui n'aime pas.
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé,
toi,
donc par déduction.
Héloïse n'a pas aimé.
Moi, je n'aime pas, non.
Voilà.
Voilà.
Alors, ce que je te propose, en fait, c'est. Est-ce que tu peux peut-être, par contre, nous parler de l'auteur ? Parce que déjà, rien que qui il est, quel âge il a, c'est top. Enfin, il est jeune, il est prolifique, il est Bastien Vivès.
Après, il a mon âge à peu près. Ouais. Non,
j'avais
bossé
vieux,
avec lui il y a très longtemps sur un festival de BD où il sortait sa première BD, où il avait eu un prix qui s'appelait Le goût du chlore. J'ai le souvenir de quelqu'un d'assez timide, d'assez un peu renfermé sur lui-même avec des cheveux longs, des boutons. Voilà.
C'est ça.
Un ado. Comme moi finalement à l'époque, mais du coup voilà, Le goût du chlore, moi j'avais adoré. Sa première BD, c'était vraiment tout en poésie, c'était magnifique, c'était presque sans parole et c'était l'histoire d'une rencontre dans une piscine, voilà, tout simplement, avec des traits très, très fins. Voilà, c'était vraiment un trait, enfin c'est un trait très beau qu'il a gardé pour sa dernière BD là. Après, il a écrit Paulina aussi, qui a été adaptée au cinéma, gros succès, qui parle de toute la vie d'une jeune danseuse ballerine et avec tous les côtés d'or que ça peut avoir, etc. Donc ça, magnifique. Et après, moi j'ai du mal sur ses dernières productions à Monsieur Vivès, voilà.
C'est possible, mais moi j'ai beaucoup aimé. Non, alors je l'ai lu.
Non,
tu sais ce que c'est, hein, quand j'ouvre un livre, je regarde jamais la quatrième de couverture, je regarde rien sur l'auteur et je me plonge dans le livre. Et là, dès le départ, j'ai pas vraiment compris où est-ce qu'il voulait en venir. Et puis finalement, une fois que je l'ai fini, je me suis dit, waouh, décidément, les métamorphoses d'Ovid, par exemple, n'inspirent pas que les bonnes troupes de théâtre mandoises comme L'hiver nu. Ici, Bastien Vivès, il met en scène, il met Séverine. Alors Séverine, c'est la jeune fille, la jeune femme transparente, fade, limite chiante, hein, qui est étudiante en lettres. Hein. On sait tous que ceux qui étudient en lettres, c'est pas des gens fun. Je plaisante, bien sûr. Hein,
je me sens pas concernée.
Non, mais personne autour de cette table ne se sent concernée. Non, je plaisante. Mais c'est comme ça qu'il la dessine, une jeune fille mais banale, voilà, qu'on ne voit pas, qui passe inaperçue partout où elle passe. Elle est dans sa fac, assise à la même place, mais même son prof ne sait pas qu'elle assiste au cours, tellement elle est ennuyeuse. Jusqu'au jour où, donc, c'est des dessins qui sont faits en noir et blanc, qui prennent pas de vie. Séverine, elle a une petite amie geek, informaticien, qui ne jure que par son iBook, iPad, iMachin, voilà.
Et qui est assez insupportable, lui aussi.
Ouais, voilà. Mais ils se sont bien trouvés, finalement. Ils ont rien à se raconter. Ils vivent ensemble, voilà. Et jusqu'au jour où, en fait, elle est en train de faire du babysitting, hein, ça ne s'invente pas, pour gagner 4 sous. Et le couple où, chez qui elle va garder la petite fille, on sent qu'il règne déjà une tension entre ce couple. Elle garde la jeune fille et quand le père de famille rentre, déjà il rentre tout seul, de sa sortie, la jeune fille et la petite fille qu'elle garde est malade et elle vomit sur donc, le vieux t-shirt de Séverine. Séverine est sale, elle va rentrer chez elle et le père de famille dit ben non, attends, tu vas pas rentrer avec du vomi sur ton t-shirt, prends le chemisier de ma femme. Et il lui tend un chemisier, c'est le titre du livre. Il lui donne un chemisier blanc lambda qui a rien d'extraordinaire en soi. Et là, elle met le chemisier. Bam, elle se métamorphose. Alors, et c'est là où j'ai trouvé le trait de dessin de Bastien Villès absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'il n'a absolument rien changé au visage. Et le trait des dessins, tu peux comparer...
Il y a juste les seins qui changent.
Oui, parce qu'elle n'a pas fermé le bouton. Ils sont de la même taille, mais elle n'a pas fermé le bouton, le dernier bouton. J'avoue que moi, je ferme un peu mieux mon chemisier.
Laisse-moi jeter un œil sur ce livre.
Oui, bien sûr. Là, on a parlé du dernier bouton qui n'était pas fermé.
Parce qu'il faut que je me rende compte comment il arrive à transformer quelqu'un sans changer le visage.
Sans changer le... Non, le visage n'a pas changé, la coiffure n'a pas changé. Si bien que ça m'a frappé au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, il a dû vraiment changer son trait. Le trait doit être plus épais, plus fin, plus machin. Non, vraiment, il n'y a que le chemisier. Et effectivement, peut-être elle aurait pu fermer le dernier bouton. Bon, soit. Des fois, c'est pas super bien taillé, les chemisiers. Et donc, elle part avec ce chemisier et la voilà totalement transformée. Et du moment où elle enfile ce chemisier, qu'elle rentre chez elle, on a une Séverine transformée qui prend confiance en elle et qui va commencer à attirer les regards. Elle a qu'une idée en tête, c'est de rendre le chemisier à son propriétaire.
Et non, elle veut pas l'enlever.
Oui, mais justement. Ah oui, mais là,
enlève-le. Non, attends.
T'es beaucoup plus loin dans l'histoire là.
Ah
là,
d'accord, pardon, excuse-moi.
Ouais, t'es beaucoup trop loin là. Et effectivement, en fait, elle a envie de, elle appelle désespérément le père de famille chez qui elle faisait du babysitting pour rendre le chemisier. Il répond pas parce qu'il a autre chose à faire que de parler à sa babysitter. Et elle va quand même reporter ce chemisier pour aller passer donc un examen à la fac. Et là, le prof, pour la première fois, la voit. Elle oublie ses notes, mais elle fait une présentation super. Il l'invite même à une soirée poésie. Enfin bon, le plan de drague, quoi. Il est un baradeur en plein. Et voilà. Donc c'est peut-être un peu cliché, c'est peut-être un peu surfait, on est sur cette Séverine qui va décider d'aller au bout maintenant de ses envies, de sa sensualité, de son féminisme, de ses choix, de sa liberté. Et elle va, elle va se permettre des choses. Parfois audacieuse, parfois un peu avilissante. Et elle va même à un moment donné avoir un verre de vin qui va tacher son chemisier. Et à votre avis ?
Mais elle le garde, le chemisier, quand même.
Eh bien, vous verrez, il va falloir le lire pour savoir la suite. Je ne vais pas en dire plus. Moi, ça m'a fait penser un peu à Dorothée dans Le Magicien d'Oz. Elle avait ses chaussures rouges et qui l'amenaient partout. Mais on avait tous un petit objet qui nous a mené dans nos voyages et qui nous donnait confiance en nous. Et elle, c'est ce chemisier qui l'a peut-être pas métamorphosé, mais qui lui a permis de se libérer. Alors effectivement, c'est du féminisme sans brûler son soutien-gorge, mais voilà.
Après, tu vois, son amant. Tu dis le mot féminisme, mais je trouve que c'est pas du tout féministe, en fait. Parce qu'elle met ce chemisier et tout de suite, qu'est-ce qui va changer dans sa vie? C'est le regard des hommes, elle est attirée. Pourquoi elle va avoir une bonne note? Parce que son prof est comme ça, il l'écoute même pas dans sa présentation.
Ouais, mais je pense que c'est... C'est là où je suis pas d'accord. Je pense pas que ça vienne du chemisier. Je pense que ça vienne de l'image qu'elle perçoit d'elle quand elle se regarde dans la glace. Elle aurait pu avoir franchement un col roulé.
C'est facile, en fait.
Ouais, mais c'est...
Ouais. Et sans dévoiler quoi que ce soit, comment le chemisier prend fin, c'est aussi... C'est caricatural, hein.
Comment ça? T'as pas lu jusqu'au bout, alors?
Si, mais le chemisier... Ah oui, il en rachète un, non, mais le chemisier d'origine. Comment il disparaît.
Ah oui, non, mais bah, oui, ah,
c'est un peu gros.
De, il a vécu ce Porro Chemisier, mais c'est gros tout ce qu'elle fait aussi. Dans la vraie vie, aucune femme normalement constituée va,
oui,
va réagir exactement comme elle. C'est une BD.
Il est parisien, Bastien Vivès, ou oui. Pas du tout. D'accord.
Mais c'est le chemisier, moi, à mes yeux, c'est un moyen. Ça aurait pu être un col roulé, ça aurait pu être un sac à main, ça aurait pu être une paire de
talons.
Mais
on, ça aurait moi, été différent.
Ouais,
si
on l'aurait perçu différemment
roulé.
Parce voilà. Que c'est vrai que déjà Bastien Vivès, bon d'accord, il aime les gros seins, il en met partout, il aime le cul, il en met partout. Voilà, mais des fois je trouve ça assez subtil avant dans ces anciennes BD, mais là je trouve ça un peu facile en fait. C'est, ou alors peut-être parce que je suis habituée et que j'en ai lu d'autres et que j'en ai un peu marre,
ouais.
Et que toi c'était une découverte de ce trait effectivement que j'adore. Moi j'adore son dessin, ouais. Et je trouve ça très subtil. Mais au niveau du propos, là ça m'a un peu saoulée parce que j'ai eu l'impression voilà, que c'était qu'il allait dans la facilité de ce qu'il savait faire et que le propos n'était pas très fin. Pour moi, j'ai pas apprécié ça. J'ai trouvé que c'était assez assez vide et assez matérialiste finalement par rapport à ce chemisier. Enfin,
ah oui, mais si tu t'en tiens au premier degré, une première lecture, tu te dis mais Séverine, ma chérie, ouvre les yeux. Enfin, un chemisier peut pas changer ta vie, mais c'est plus profond que ça. Je pense que c'est elle s'ennuyait déjà au début du livre quand elle avait son vieux t-shirt des Stones. Elle faisait des appels du pied à son copain, il réagissait pas.
Enfin... Elle vire un t-shirt des Stones pour un chemisier.
Non, la gamine lui a vomi dessus.
Elle a rien compris. Quoi.
C'est ça, on est complètement d'accord, mais. Voilà. Pour moi, le chemisier, c'est un moyen, effectivement. Il en a fait le fil conducteur de son livre, mais c'est, voilà, comme dans ta vie, quand il va se passer quelque chose qui va pas te transformer, mais qui va faire que tu vas avoir du courage, tu vas oser des choses. Ben là, en l'occurrence, c'est ce chemisier, c'est rien. C'est un moyen, mais c'est tombé que c'était à ce moment-là, mais le lendemain, finalement, elle a oublié ses notes, elle passe à l'oral. Elle avait mis le chemisier, c'est normal, elle avait des vieux t-shirts, elle a un truc classe, elle le met. C'est pas forcément le chemisier, c'est de se dire « Ouais, je peux le faire, je suis une fille, je peux le faire. Mon mec qui gère ma vie chez moi. Non, c'est fini, maintenant je vais reprendre en même ma vie. »
Je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que dans le traitement scénaristique, je trouve que ça aurait pu être une belle idée, effectivement, mais je trouve qu'il n'arrive pas à aller... jusqu'au bout, si c'était son idée de base, quoi.
Ouais, moi, je l'ai.
Mais ouais. Donc voilà, moi, je suis pas emballée, mais après, les anciennes, j'aime beaucoup, ouais. Et ça veut pas dire, voilà, que.
Alors, c'est du noir et blanc.
Pas lire du Bastien Vivès.
Tout est en noir et blanc. Après,
oui,
il y a de
souvent,
l'actu
ouais.
politique. Enfin, il est quand même.
Non, il dessine très bien.
Ah oui, oui, mais c'est un style, de toute façon, on reconnaît.
C'est hyper particulier, ouais, c'est ça. Mais justement, après, c'est aller dans cette facilité, même dans le texte. Hein, le texte, il est hyper facile. Là, par contre, t'as envie de dire, mon gars, t'aurais pu mettre des phrases un peu plus. Mais ça fait son charme aussi.
On y arrive.
Non, sur le texte, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de mots plus complexes, tout ça?
Non, mais après, moi, je vois bien ce qu'il essaye de faire. Il essaye de traduire un petit côté magique du quotidien, quelque chose, une scène banale, et d'en faire quelque chose de beau et de poétique et de magique, ce qu'il arrivait à faire avant, mais dans celle-là, j'ai pas retrouvé
d'accord.
Ça.
D'accord. Ok.
Mais c'est que mon avis.
Mais j'accepte ton avis. Heureusement.
Venez
finalement,
acheter ce livre.
Pas... Ouais,
pour
mais
vous
ce serait intéressant qu'on ait des auditeurs qui le lisent et qui. J'adorerais, moi, avoir des retours.
On a un coup de fil, justement.
Oui, je suis d'accord avec Louise.
Bon, mais voilà, Valérie.
Super, merci.
Dommage.
C'est gentil. Public, je t'aime.
Ça aurait pu. Allez, parfait. C'est chez Casterman, maison d'édition bien connue.
Bien sûr. Ouais.
Ok, tiens, en parlant de s'habiller, se déshabiller, on va donner la parole à Pauline. Non pas parce qu'elle s'habille, elle se déshabille, mais parce que je vois la pochette du livre que tu vas nous présenter. C'est quelqu'un qui enlève un pull.
Ouais, qui enlève un pull, un t-shirt.
Ça, un t-shirt ou un sweatshirt même, on peut dire.
Un ado qui enlève son t-shirt, son pull, son...
Une ado, non?
Voilà.
Tout
est là. On a fait la transition.
Exactement.
Là, on est bon, hein, Valérie.
Alors, cette BD-là, c'est Appelez-moi Nathan de Catherine Castro et Quentin Zution. Je sais pas la prononciation.
Je sais pas.
Appelez-moi Nathan, c'est tiré d'une histoire vraie, en tout cas de l'expérience d'un jeune garçon qui est né dans le corps d'une fille. Tout simplement, je crois qu'on peut le raconter comme ça. Et évidemment, tout le monde voit une fille, comme vous. Voilà, là, c'est un garçon qui a.
Les trucs clichés avec les dos. On voit des seins, on dit que c'est fille.
Mais c'est évident, c'est le langage
c'est
du corps, en fait. Finalement, on a tous, on voit une poitrine, on dit fille. Et donc, bon, jusqu'à l'adolescence, alors je me rappelle plus son nom en fille, c'est Lily ou... Alors là, j'ai un doute.
Ah, je sais plus, Lila.
Lila, voilà, pas Lily, Lila. Dans son enfance, Lila a toujours senti qu'elle était un garçon, mais voilà, quand elle en parle, ça c'est très difficile déjà, quand on n'a pas l'habitude. Voilà, les problèmes qui sont posés, c'est sa maman qui lui fait porter une robe, c'est sa grand-mère qui va lui offrir un petit sac Hello Kitty. Mais il sait qu'il est un garçon et finalement, voilà, c'est problématique sur des moments particuliers où, mais les gens, voilà, lui disent que c'est un garçon manqué. Enfin, voilà, c'est pas son enfance. Quand il la raconte, on sent que c'est un peu problématique déjà, mais c'est pas hyper difficile. Mais arrive la puberté et la naissance notamment de la poitrine. Et là, son corps crie, son corps dit « Tu es une fille, t'as des seins, t'es une fille. » Et là, c'est l'horreur. Là, parce que son corps ment, son corps dit à tout le monde. Elle se retrouve avec à l'école, par exemple, à la piscine, avec sa poitrine. Il se retrouve... Il y a rien qui va finalement. C'est très dur parce que son corps dit à tout le monde tu es une fille, alors qu'il sait très bien qu'il est un garçon. Et du coup, ce qui est très bien fait dans cette bande dessinée, c'est que il dit vite qu'il est un garçon, avec colère. C'est des moments difficiles. Sa famille essaye de comprendre, ses amis essayent de comprendre. C'est quelqu'un qui a autour de lui des gens hyper compréhensifs et malgré tout. C'est hyper compliqué. Ses amis lui disent « Mais alors, t'es lesbienne ?» Ou ses parents comprennent pas vraiment, lui disent « Mais est-ce que c'est pas l'adolescence? T'es en train de changer? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Tout le monde le soutient, tout le monde essaye de vraiment l'aider. Et tout est dur quand même parce que finalement, tout est une question de corps, tout simplement.
Ça exprime bien la complexité de la situation.
Oui.
De ce que tu nous décris, oui.
Ouais. Et on est... On souffre avec lui parce qu'il y a des passages, des dessins extrêmement violents où il s'imagine, c'est vraiment la poitrine, un des plus gros problèmes dans ce bouquin, où il s'imagine s'arracher les seins et c'est assez violent, hein, c'est un peu sanglant, c'est très dur, mais je trouve que ça traduit vachement bien ce souci d'être né dans le mauvais corps tout simplement. Et, enfin, il a aucun doute sur le fait qu'il est un garçon. Mais on l'appelle Lila, bon, on lui fait mettre des robes des fois, on lui offre des trucs de fille, mais finalement c'est pas ça le plus gros problème, c'est juste que son corps n'est pas le bon. Et ça c'est très dur de changer ça.
Donc ça commence avant la puberté, jusqu'à quel âge
Alors l'avant-puberté c'est très court, c'est un petit retour, ça commence vraiment au moment de la puberté, au moment du changement de corps. Et jusqu'à la fin de l'adolescence. Je vais pas vous dévoiler vraiment ce qui va se passer après, parce que je vous laisse découvrir. En tout cas, c'est un bouquin moi que j'ai trouvé très bien fait. Les dessins, c'est de l'aquarelle, c'est je suppose de l'aquarole, je dirais.
À l'ordinateur, je sais pas, mais ça fait très pastel, très.
Ouais.
Il y a de tout, hein. Il y a du foncé, il y a du coloré, c'est beau.
Ça t'a appris des choses, ça t'a fait changer ta vision des choses sur ce, je vais dire, problème. Enfin, c'est un problème pour ces personnes-là par rapport à tout ce qu'ils entourent, aux avis qu'on leur donne. Ça t'a fait évoluer ou pas du tout? Ça t'a conforté ou t'as été un peu déçu du traitement de
ça? Non, j'ai trouvé très intéressant de traiter une histoire où... Souvent, quand on lit ce type d'histoire, la famille réagit mal, les amis. Là, oui. C'est des gens qui
sont... Ça, c'est intéressant.
Ouais, c'est très intéressant de voir que même quand on...
On veut aider, on n'y arrive pas toujours.
Voilà, des fois, c'est compliqué. Bon, c'est une souffrance pour les parents. Elle a un petit frère qui est aussi perdu que lui, finalement, parce que c'est compliqué pour tout le monde d'avoir en face un corps qui dit quelque chose et un esprit qui dit autre chose. Nous, on lit tellement... fortement les deux, et on n'imagine tellement pas que le corps puisse ne pas être une traduction de l'esprit, finalement. Voilà, on a cette expression de garçon manqué qui vient facilement, mais moi je trouve encore qu'on a du mal à se dire qu'un corps puisse ne pas être le bon, et là on le ressent complètement. Alors sur ce côté-là, je pense que déjà c'est... C'est vraiment bien fait. Mmh. C'est hyper réussi parce que voilà, c'est vraiment une erreur dans le corps.
Ça se déroule où ?
Je suppose. Dans quel pays, tu veux dire ?
Oui, oui, dans quel pays ?
En France, ouais, je suppose, ouais.
C'est pas... D'accord.
Le dessin, ça fait penser à une grande ville, quand même.
Ouais.
Tu sens que c'est pas la campagne.
Après, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'esprit de ce jeune homme, donc de Nathan, et on a ses colères, on a ses réactions, on a. Voilà, ses pensées aussi, ses émois amoureux aussi. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très beau et on est sous tension, mais comme dans n'importe quelle histoire adolescente, finalement, c'est vrai. Sauf que là, bah, il y a un problème qui se rajoute en plus, effectivement. Et je trouve que ça permet d'en parler, mais c'est un sujet dont on parle de plus en plus, finalement. Il y a eu des vidéos d'enfants qui en parlaient, clairement. Il y a eu des reportages. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui devient de moins en moins tabou, je pense.
Ça fait un moment qu'on en parle, mais oui, ça se libère un peu plus.
Oui.
Manchester United en football a annoncé qu'ils allaient créer des toilettes transgenres dans le stade dedans à Old Trafford.
Manu, toujours à la pointe du social.
Ok, merci Pauline. C'est tu voulais rajouter quelque chose, Héloïse ?
Oui, moi aussi, je vais regarder la fin.
C'est vraiment pas sympa ce qu'on fait pour nos auditeurs parce que nous, on connaît la fin des.
Non, moi j'ai bien aimé. Non, ça permet encore une fois de parler d'un sujet voilà, intéressant et important, je pense. Après, c'est vrai que. Voilà, c'est assez court. Moi, j'aurais aimé que ça soit un peu plus développé. Voilà.
Mais je pense que si c'est court comme ça, moi, je le vois comme s'adressant à des ados.
Oui.
Je pense que, parce que vu le vocabulaire, c'est du vocabulaire d'ado, je pense que le. Voilà, ça a été écrit pour des ados et peut-être que.
Bah, une première approche aussi pour lancer le sujet. Hein.
Ouais.
C'est important parce que c'était quand même un sujet qui était très tabou il y a 20 ans de ça. Et qui aujourd'hui commence un peu à se libérer, mais il faut tout. Hein. C'est pas...
Ah oui, non, mais même j'imagine, même si tu peux être très ouvert comme parent, quand tu es face à ça, ça doit être
compliqué
à gérer, c'est
sûr. Ouais. Ouais. Et c'est ça que je trouve qui est très réussi là-dedans, c'est que ses parents, notamment, sont compréhensifs, le soutiennent. Enfin, voilà, c'est pas une famille difficile et pourtant c'est quand même extrêmement compliqué.
C'est un problème d'identité donc du coup forcément c'est très profond.
Ouais. Mmh. Donc très réussi moi je l'ai trouvé.
Ah, c'est jeune de lire la fin. Ok, super.
J'avais menti, j'avais pas lu la fin, j'étais au milieu, Ludo.
C'est trop tard.
C'est pas biographique.
Voilà, on n'a pas dit depuis le début si les livres appelaient à des suites ou pas, donc celui-là non. Le chemisier, je me pose la question.
Non.
Non plus, le chien non plus, Karl Marx, à moins que tu portes le capital non plus, bon voilà.
Bah après si, la soirée d'une faune à la cartégienne, on peut imaginer, le matin, lendemain de cuite quoi.
Non, si on n'imagine pas ça.
Ah si, je pense que ça peut se faire.
Ça peut, ouais, je suis d'accord avec toi.
110 personnes qui viendraient nettoyer.
Ouais, c'est pas mal ça.
Oui, tu devrais écrire à Rupert et Mulot.
Eh bien écoute, pourquoi pas, dès ce soir, je m'en vais leur faire un petit courriel.
Héloïse. Poursuivons.
Alors, je vais vous dire deux mots d'une très chouette BD parue chez Sarbacane qui s'appelle Les Égarés de Dejima. Les auteurs sont Nicolas Wouters et Michel Folletti. Donc, c'est l'histoire en fait d'un jeune néerlandais en 1784. C'est une époque où voilà, il est très bourgeois, très noble, on peut dire. Et c'est une époque où on est fasciné par l'Orient. Ça s'appelle donc l'orientalisme. Donc les peintres s'approprient le sujet, les collectionneurs collectionnent des choses qui viennent d'Orient.
Ou pardon. Excusez-moi.
L'émotion. Voilà, et donc là, on est face à un jeune noble, en fait, qui est fan du Japon, sans jamais y être allé, qui est très riche, donc il peut faire venir par bateau tout un tas de choses du Japon sans souci. Mais il rêve d'y aller, il apprend le japonais, enfin, c'est vraiment une passion. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, le Japon est totalement fermé aux étrangers, à part un petit port pour le commerce et... Aucun étranger n'est allé sur les terres au Japon. Si on en retrouvait un, ils étaient condamnés à mort. Voilà, exactement. Et donc, voilà notre jeune néerlandais. C'est la révolution en Hollande. Sa maison brûle, toute sa collection part en fumée. Son père est mort. Et donc, il arrive en fait à se mettre dans une petite caisse et à partir sur un bateau direction le Japon.
Yeah.
Voilà, donc les marins découvrent qu'il est sur le bateau. Ça se passe assez mal pour lui. Il est déjà assez traumatisé pendant ce trajet, qui dure assez longtemps, je pense. Et donc, il arrive enfin au Japon. Et donc là, il se jette à la mer avec l'aide d'un espèce de fou, de samouraï fou, qui débarque sur le bateau... pour mettre le bazar, quoi, en fait. Et on sait pas dans quel but, mais en tout cas, il se retrouve avec ce personnage assez, assez bizarre et assez drôle, mais assez menaçant aussi, qui fait assez peur, ce samouraï un peu taré. Et donc, eh ben, il va parcourir le Japon avec, avec ce personnage pas facile. Toute l'hostilité qu'il y a envers lui, il va découvrir des gens assez sympathiques aussi, mais qui sont gouvernés par cette idée, voilà, qu'il faut garder cette culture pour eux, qu'il faut garder cette culture pour nous, les Japonais, ne pas diffuser, ne pas donner certaines techniques, en fait, d'art ou d'industrie, etc.
C'est très d'actualité.
Et donc, ouais. Oui.
Oui, non, c'est vrai.
Et donc, voilà, donc on. Ça, enfin. C'est vraiment un récit de folie et de violence et de découverte, et il va vivre ça en. Voilà, en très peu de temps, il va vivre tout un tas de choses. Il va vivre son rêve, en fait, qui est à la fois un cauchemar, quoi, parce que c'est très violent. Mmh. Et dans les dessins, c'est très japonisant aussi. C'est très, très beau. Les couleurs aussi, ça fait penser à des vieilles gravures ou des vieux tissus japonais. Il y a des côtés drôles, mais il y a des côtés aussi très touchants. Enfin, il y a plein de choses, et c'est, voilà, un récit comme un espèce de récit d'aventure historique très chouette. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment haletant, on s'ennuie jamais.
Et... Ça a l'air foisonnant, oui.
Ouais, tout à fait, et on passe par tous les sentiments.
Il va se faire attraper. Alors c'est rigolo parce que je viens de lire un roman qui se passe au même endroit, à la même période en fait. Quand... Oui, parce que c'est Nagasaki, c'est l'ancien nom de Nagasaki. Et c'est quand tu as commencé à en parler, j'ai dit mince, mais soit j'avais bu, soit j'ai lu cette BD. Et c'était Les Mille Automnes de Jacob de Zoet. C'est toi qui me l'avais vendu d'ailleurs. Et c'est voilà, il y a vraiment quelque chose de très mystérieux autour de cette période, de la colonisation de la Hollande sur le Japon, où petit à petit, les Hollandais arrivent à aller découvrir un peu ce Japon féodal, hein, puisque c'est très ancien, avec toutes les coutumes dans les temples, dans des choses comme ça. Mais c'est effectivement c'est vraiment très, très fermé. Et il y a une découverte du Japon comme on aimerait qu'il soit encore aujourd'hui, très, avec toute la martialité, toute la culture, tout. Port de Nagasaki, d'Ejima, qui est un bouillon de vie, puisqu'il c'est néerlandais, mais c'est aussi, il y a d'autres bateaux des fois qui accostent là, puisqu'ils se perdent beaucoup. Enfin, c'est très vivant, et c'est une période, je crois que c'est fin 18e.
C'est 1794.
Jacob de Zoet, c'était fin 1790.
Mais je sais pas, enfin, je pense que l'auteur a dû effectivement se renseigner parce qu'il doit y avoir des.
Oui, c'était le début du comptoir des Indes, tout ça. Voilà. Et c'est une période qui est fabuleuse sur le Japon, qui commence à s'ouvrir aux autres. C'est vraiment je pense, une période du Japon qui est vraiment très belle.
C'est en un seul tome. Hein.
Oui, pareil. Voilà. Il n'y aura pas de suite. Ah ouais. Ça se finit.
Bien, ça.
On peut, dire que ça se finit.
Super.
Génial,
j'ai envie. J'ai le syndrome de l'olive d'Isidore et les autres. Il reste une tomate, j'ose pas la prendre.
Tu peux la prendre.
C'est pas une tomate.
Est-ce que tu as gratté ton canapé aujourd'hui?
Le nugget, j'ose pas prendre le dernier nugget.
Il reste qu'une dernière chose pour nos auditeurs. Ouais.
Il faut parler de cette dernière BD.
Je pense que là, il est absolument indispensable que le CSA nous pardonne si nous utilisons plus que les 4 dernières minutes qui nous restent.
Non, il nous reste 4 minutes. Non,
il faudra qu'il nous pardonne parce que là, s'il y a vraiment un coup de cœur dont il faut parler, c'est un peu le Isidore et les autres version BD.
Ah. Donc, on ne peut pas BD... valider, on ne l'a pas lu, nous.
Oui, mais on est deux à l'avoir lu, on est d'accord. Donc, ça considérera comme si nous étions quatre à
l'avoir lu. C'est une BD de Monet ?
C'est une absolument, mais merveilleuse, fantastique, j'allais dire fantasmatique, mais c'est Oublemer. Non, c'est vraiment, si je devais donner la perfection sur une BD, ce serait celle-là. Et vous savez que j'exagère toujours un peu. Et là, pour une fois, j'exagère pas. J'ai ressenti toutes les émotions qui existent sur Terre à la lecture de cette BD. J'ai eu la larme à l'œil, j'ai eu de la colère, j'ai ri, et j'ai ri à voix haute. Donc ça, par exemple, dans les transports en commun, dans la grisaille parisienne, sortez ce livre et je pense que vous pourrez très vite faire rire les gens qui sont autour de vous. Non, c'est vraiment... Alors, donc, c'est Catherine Meurice, rien à voir avec Guillaume, malheureusement, qui est une ancienne...
enfin, je fais une petite bio très rapide, mais qui est une ancienne de chez Charlie et qui a frôlé la mort puisqu'elle est juste arrivée en retard à sa réunion le jour des attentats.
Et suite à ça, elle a écrit, elle a passé un an, quelques mois à la Villa Médicis en résidence et elle a écrit une BD en fait sur le deuil qui s'appelle La Légèreté qui est magnifique aussi.
Et ses dessins sont pleins de légèreté.
Ah oui, non, et c'est plein d'humour aussi. Ouais. Enfin, voilà.
Elle a une plume, et en fait, là, c'est son autobiographie. Donc, elle est toute jeune, puisque... Oui, elle est vraiment très, très jeune, puisqu'elle a 37 ans. Et elle, donc, dans sa bande dessinée, elle se représente chez elle, dans son appartement parisien. Et elle va dessiner, sur le mur, elle va dessiner une porte. Et elle va rentrer dans cette porte et elle va nous amener dans un champ de tournesol. Et au fur et à mesure qu'elle rentre dans ce champ de tournesol, elle va rapetisser jusqu'à disparaître et on va la retrouver chez elle, donc dans son enfance. Ses parents ont tout plaqué et ont décidé de racheter une ferme qu'on très vite on va situer dans le Poitou, hein, puisque ça parle beaucoup de fromage de chèvre.
Et de Ségolène Royal.
Ségolène, si tu nous écoutes. Oh là 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 là. Non, fabuleux. C'est là où j'ai ri à voix haute, plusieurs fois. Non, et c'est donc, elle va découvrir, en fait, ses parents ont racheté rien. Ils ont racheté une maison qui était une ancienne ferme qui est en ruine complète. Tout autour de ce corps de ferme, il y a des grandes murailles, en fait, en pierre. Et dès qu'elle va voir ces murailles de pierre, elle va tomber folle de ces pierres, en fait.
C'est une jeunesse qu'elle s'invente?
Ah non, c'est sa jeunesse.
Elle est vraiment, ses parents ont vraiment racheté un corps de ferme,
voilà,
d'accord.
Voilà, c'est ça. Et ses parents sont des gens hyper, hyper cultivés, hyper intelligents, hyper ouverts sur plein de choses. Et ils vont un peu se rebeller contre le remembrement qui est demandé à tous les paysans de raseller, de faire des grands champs bien plats, bien lisses, d'avoir qu'une seule essence de bois. Enfin, ils vont se rebeller sur ça et ils vont se remettre chez eux en acte de... Ils vont rentrer en résistance en plantant sur leur grand terrain des essences différentes. Et ce qui est de fabuleux, c'est qu'on va mêler la littérature avec la nature, puisqu'ils vont planter des... ils racontent à leur fille, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, j'imagine qu'ils inventent comme moi j'invente à mes enfants. Ils vont dire, tu vois là, on va planter un figuier. Et ce figuier, en fait, on l'a ramassé à tel endroit et c'était là où Rabelais, dans ses écrits, avait dit qu'il avait mangé les meilleures figues. J'imagine, on va manger les mêmes figues que Rabelais. Et en fait, et tout ce qu'ils vont planter va avoir un lien avec un auteur, un écrivain, un poète. Et tout le livre, en fait, toute son enfance va être bercée de choses qu'ils ont été tchourées, dans le langage de Catherine Meurice jeune, à des écrivains. Et alors, l'écrivain fil rouge de Catherine et sœur Fanny, ça va être Pierre Loti, parce que très vite, quand elles arrivent dans leur campagne, elles vont ramasser des fossiles. Et elles vont, dans leur grange, créer une petite expo, comme Pierre Loti faisait chez lui, sauf qu'elles n'ont pas de vitrine. Elles vont créer leur petit musée chez elles et vont faire payer, d'ailleurs, l'entrée à leur mère.
Surtout à leur maman. Ouais.
Voilà, leur maman qui doit donner 50 centimes, enfin 60 une fois qu'elle découvre.
Mais c'est un super musée avec des grottes séchées.
Grottes séchées qui ont de l'odeur.
Clous, avec plein de choses magnifiques.
Et puis là, elle découvre la campagne, elle découvre la vie à la ferme, elle découvre la nature, elle découvre aussi les sports nature qui sont pas du tout nature dans la campagne, la chasse, des choses comme ça.
Le quad,
c'est bourré d'humour. Enfin, c'est beau, c'est bourré d'humour, c'est intelligent parce qu'elle, par moment, elle va nous citer du Zola, et tout est attentif en fait. On a de la nature, de la littérature, de l'art. Et si bien qu'un jour, ils vont au Louvre avec les parents pour découvrir l'art. Et là, elle va décider qu'à partir de ce moment-là, elle allait dessiner, elle aussi. Et donc, elle va être sollicitée pour répondre, pour fabriquer l'affiche pour la fête du cabicou.
Du fromage de chèvre. Ouais.
Et en fait, elle dessine une belle nymphe allongée sur un hamac avec une tête de chèvre. Et le jury décide que c'est magnifique, mais il refuse son dessin parce que la chèvre fait trop penser à Ségolène Royal et ils ont peur qu'elle se vexe. Voilà, okay. Je suis désolée, je spoilis ce passage, mais c'était vraiment trop croustillant.
Merci Valérie.
Voilà, non, c'était fabuleux.
C'est un livre vraiment bienveillant et qui fait du bien et on peut tous se reconnaître dans plein de passages et dans la relation avec sa sœur et avec tout est beau. Tout est beau, tout est mignon.
Il est parfait, le dessin est parfait.
Rappelle-nous le titre, la maison d'édition.
Les grands espaces, et c'est chez Drago. Et c'est Dargo. De Catherine. Dargo, pardon. Non, mais c'est moi, attends.
Merci
trop
beaucoup.
Trop d'émotions.
Voilà, trop d'émotions. On en aura aussi d'ici à 2 semaines avec la rentrée littéraire étrangère, hein, qu'on a commencé à lire.
Absolument, qu'on a fini.
Vraiment.
Qu'on a fini, non, on n'a pas fini. Voilà, des beaux livres, hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai un très beau.
Oui.
Mmh. Ouais.
J'ai mon résumé déjà de Gawaito, ça va être magnifique.
Parfait, on ne dit rien de plus. Ciao, merci à tous.
Salut.
Ciao.
Salut.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.